Cham voyage.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cham. Vous écoutez aujourd'hui un podcast réalisé par la classe de 1TST1 autour du thème l'invitation au voyage, l'itinérance garantie d'une vie libre. Dans ce podcast, nous allons explorer différentes facettes de l'itinérance, la liberté, mais aussi les limites, les nouveaux modes de voyage et même le voyage forcé. Alors installez-vous confortablement et embarquons sur les routes de l'itinérance. Pour ouvrir notre podcast, Louane, Maïlys et Annaëlle vont explorer une question essentielle. L'itinérance nourrit-elle la création ?
On se demande si l'itinérance peut nourrir la création artistique. Pour moi, la réponse est oui. Quand on voyage, on change d'environnement, on sort de ses habitudes. On découvre d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres façons de vivre. Et tout cela, ça oblige à regarder le monde différemment. Et souvent, ça réveille l'imagination. On trouve de nouvelles idées, on réfléchit autrement. Bref, ça stimule la créativité. Un bon exemple, c'est Arthur Rimbaud. Dans son poème Ma Bohème, il parle de ses marches à travers la campagne, parfois sans argent, mais toujours libre. Il avance au hasard, dort dehors, et c'est justement dans cette vie-là qu'il trouve son inspiration. Tout ce qu'il voit et ressent devient matière de poésie. Sa manière d'écrire est directement liée à cette liberté de mouvement. En bref, l'itinérance stimule la création en ouvrant l'esprit.
L'itinérance nourrit également la création parce qu'elle permet à l'auteur de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes différentes, et de vivre des situations différentes. Ces découvertes l'aident à inventer des histoires beaucoup plus riches et des personnages beaucoup plus variés. Un bon exemple, c'est le théâtre de rue d'Aurillac. Quand on s'y promène, on tombe sur des artistes venus du monde entier, chacun avec sa manière de jouer, d'improviser. On passe de scènes drôles, engagées à décalées. Toutes ces découvertes inspirent, comme dit avant, à inventer des histoires plus riches. Plus on explore, plus on a matière pour imaginer.
Pour moi, l'itinérance ne nourrit pas toujours la création. Exemple, dans le film Into the Wild, vu en cours de culture générale, le personnage principal, Chris, part pour se sentir libre et trouver un sens à sa vie. Mais très vite, la route devient plus une épreuve qu'une source d'inspiration. Il doit sans arrêt s'adapter, survivre, trouver de quoi manger. Et quand tu passes ton temps à gérer l'essentiel, t'as plus vraiment l'espace mental pour créer.
L'itinérance nourrit également la création parce qu'elle permet à l'auteur de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre des situations différentes. Ses découvertes l'aident à inventer des histoires plus riches et des personnages beaucoup plus variés. Un bon exemple, c'est le théâtre de rue d'Aurillac. Quand on s'y promène, on tombe sur des artistes venus du monde entier. Chacun avec sa manière de jouer, d'improviser. On passe de scènes drôles, engagées à décalées. Toutes ces découvertes inspirent. Plus on explore, plus on a matière pour imaginer.
Pour moi, l'itinérance ne nourrit pas toujours la création. Dans le cas du film Into the Wild, vu en cours de culture générale, le personnage Chris part pour se sentir libre et trouver un sens à sa vie. Mais très vite, la route devient plus une épreuve qu'une source d'inspiration. Il doit sans arrêt s'adapter, survivre, trouver de quoi manger. Et quand tu passes ton temps à gérer l'essentiel, t'as plus vraiment l'espace mental pour créer. En plus, l'itinérance l'isole au lieu de l'ouvrir au monde. Elle éloigne des autres et même de lui-même. La créativité, c'est aussi le partage, les échanges et les émotions qu'on transforme. Lui, il vit trop vite, trop fort, sans jamais pouvoir se poser. Au final, Into the Wild montre que bouger tout le temps peut épuiser plus qu'inspirer. L'itinérance peut parfois couper la création au lieu de la nourrir.
Changeons maintenant de perspective avec Lana, Dylan et Tania qui se sont intéressés au slow tourisme.
Le slow tourisme, c'est l'art de voyager autrement, prendre le temps de ralentir, d'observer et de s'imprégner vraiment de la nature et de la richesse du patrimoine qui nous entoure. Cette façon de voyager nous invite à déconnecter et à sortir du rythme habituel pour découvrir ce qui se trouve tout près de nous. On parle alors du tourisme de proximité, c'est-à-dire le fait d'explorer nos propres régions, nos villages, nos paysages, sans forcément parcourir des centaines de kilomètres. C'est se laisser surprendre par des lieux que l'on croyait connaître et réaliser qu'ils offrent pourtant une vraie diversité et une grande beauté. Le slow tourisme, c'est aussi une démarche humaine, aller à la rencontre des habitants, partager leur savoir-faire, comprendre leur culture. Et c'est une pratique plus écologique qui respecte l'environnement, le patrimoine local et la biodiversité. En somme, c'est une manière de voyager qui remet l'essentiel au centre, prendre le temps, profiter de l'instant présent et vivre de l'expérience simple mais authentique juste autour de chez soi.
Le slow tourisme s'appuie sur des modes de déplacement respectueux de l'environnement, tels que la marche, la randonnée à pied ou à cheval, voire en vélo. En outre, cette pratique est ouverte à tous. Le cyclotourisme est une forme de slow tourisme, mais elle se pratique à vélo. Il est possible d'effectuer des balades à vélo progressivement sans être contraint de s'engager dans une longue excursion. Le vélo électrique a transformé l'expérience du vélo pour les trajets longs. Cela écarte les programmes de dénivelé, vous permettant d'apprécier davantage l'activité à vélo. Ce type de voyage demande une préparation minutieuse du matériel, incluant une chambre à air, une pompe et la capacité de réparer un pneu de vélo en cas de crevaison. Cette méthode peu chère pourrait vous être bénéfique d'un point de vue financier. Il est également possible de proposer ces activités aux familles accompagnées d'enfants en ajustant le rythme et en prévoyant des arrêts à différents lieux exceptionnels, en diversifiant les activités pour les enfants tout en assurant leur sécurité par une surveillance attentive.
Si vous voulez découvrir l'Auvergne en itinérance, il est indispensable de visiter les incontournables de vos vacances dans le Puy-de-Dôme. On retrouve les volcans aux courbes douces de la chaîne des Puys, des sommets abrupts aux vues époustouflantes du massif du Sancy, les monts et intimes forêts du Livradois-Forez, les rivières, les lacs et les vallons des Combrailles, ou encore les villages perchés aux accents du sud du pays d'Issoire. Les mille et une facettes des paysages raviront les amateurs de pleine nature en vacances dans le Puy-de-Dôme. De plus, pour les petits et les grands curieux, le Puy-de-Dôme offre de nombreux sites de visite pour toute la famille. Tout d'abord, on retrouve Vulcania, le musée de la bataille de Gergovie, le volcan de Lamtégui, l'aventure Michelin, le parc animalier d'Auvergne ou encore le musée de la Coutellerie, mais aussi un riche patrimoine historique entre les sites archéologiques, les châteaux médiévaux, pépites de l'art romain, les plus beaux villages de France et bien sûr la visite historique de Clermont-Ferrand.
Ainsi, le slow tourisme est une forme de liberté qui ne nécessite pas forcément d'aller très loin de chez soi comme on vous l'expliquait juste avant. Le tourisme de masse en est son pendant, il désigne l'afflux important de visiteurs dans des destinations populaires.
Ces visiteurs ne profitent pas des lieux à cause du nombre de visiteurs présents. C'est pour ça qu'on vous conseille de privilégier les activités autour de chez vous. Vous risquez d'être surpris par leur beauté et de pouvoir apprécier la tranquillité des lieux.
On continue notre voyage avec l'intervention de Tessa, Lola et Camille qui nous plongent dans l'univers de la van life.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de la van life. Alors, la van life, qu'est-ce que c'est ? Elle débute de par des mouvements culturels dans les années 1960 aux États-Unis, lorsque des jeunes veulent abandonner leur mode de vie dite traditionnel pour se lancer vers un nouvel horizon, partir à l'aventure au bord d'un van. Les premiers véhicules utilisés étaient souvent des vans aménagés, comme le Volkswagen Combi, qui est devenu un symbole de liberté et de contre-culture particulièrement avec les mouvements hippies. À partir des années 2000, la van life est devenue un phénomène moderne grâce aux réseaux sociaux, où des voyageurs partagent leur aventure et aménagent des véhicules pour vivre sur la route, alliant mobilité, minimalisme et quête de liberté. Pour eux, cette expérience aurait pour but de les changer et les rendre meilleurs, car cela modifierait totalement leur mode de vie. De plus, c'est pour eux une façon de se connecter à la nature. On l'appelle aussi les routes hippies, des jeunes qui adoptent un mode de vie nomade.
On va maintenant parler des véhicules utilisés pour pouvoir faire cette expérience. Je vais parler des véhicules du moins cher au plus cher. Par exemple, il y a le Renault Trafic et aussi le Citroën Jumpy. On peut retrouver encore plein d'autres marques, mais ce sont les plus utilisés. Ce sont des véhicules très utilisés pour les aménagements. Ils sont très, très maniables, peuvent passer en ville. Ce sont des véhicules très utilisés pour des aménagements dits « do it yourself ». Ils sont très maniables, peuvent passer en ville. Neuf, ils peuvent aller de 50 000 euros à plus de 80 000 euros. Ce qu'il faut retenir avant de se lancer, c'est que les prix varient énormément si le van est neuf ou d'occasion. Aménager soi-même coûte moins cher que d'acheter un van déjà aménagé, mais cela prend du temps et requiert des compétences. Le coût d'un van ne s'arrête pas à l'achat, il faut penser au carburant, l'entretien du véhicule, l'assurance, les frais de stationnement, les dépenses logistiques, douche, sanitaire, cuisine.
Nous avons pris le témoignage du compte Instagram En Van Life Simone. Sur leur compte, ils nous partagent des points positifs et négatifs de ce mode de vie comme la liberté, l'aventure sans limite, l'économie au niveau des hôtels et autres logements. Il n'y a pas de contrainte d'horaire de transport, ni de changer de programme. Ils peuvent prendre leur temps. Pour les points négatifs, il y a le confort au niveau de l'hygiène, par exemple se laver dehors avec le froid ou la météo et ses contraintes. Il y a les problèmes mécaniques et l'humidité par rapport pour les vitres. Et il y a les stationnements. Ils nous conseillent aussi par rapport au fait de faire des changements importants dans le van, il faut absolument faire une demande au constructeur pour avoir une autorisation de déclasser le véhicule. Certains pays sont recommandés, comme par exemple l'Écosse, car il y a des routes désertes et les bivouacs sauvages. Pour la Suède, la nature et les collines sont absolues. Pour la Turquie, la liberté et la gentillesse des gens est très appréciée. D'autres pays sont interdits pour faire du camping en van, comme l'Islande, la Croatie et l'Autriche, et d'autres encore.
Et que pensent les philosophes à propos du questionnement « Peut-on être vraiment libre en voyageant ?» C'est ce que nous allons découvrir avec Paul, Maxence, Timur et Alizé.
Bonjour, bienvenue sur Radio Cham. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Alizé, de Timur et de Paul. Donc aujourd'hui, on va vous parler un débat philosophique. Peut-on vraiment être libre en voyageant? Donc d'abord, je souhaite commencer par Alizé, qui elle est plutôt pas d'accord.
Bonjour à tous. Pour répondre à cette question, nous pouvons nous appuyer sur Rousseau. Rousseau, qui est un grand philosophe du XVIIIe siècle, pour lui, l'homme n'est naturellement bon et heureux et c'est la société qui le corrompt. Il y a d'ailleurs une citation célèbre de lui qui est « L'homme est né libre et pourtant il est dans les fers ». Et cela montre que malgré que l'on pense être libre, par exemple en partant en voyage, on peut faire face à différentes situations qui peuvent nous contraindre à suivre des règles des sociétés, comme par exemple dû à des contraintes budgétaires, comme on peut le voir dans le film Into the Wild, où il faut travailler pour pouvoir vivre et profiter pleinement de son voyage. Cela illustre que l'on ne peut pas vraiment être libre et qu'il faut des moyens financiers malgré tout et que la société elle nous empêche de vivre comme on le souhaite.
Donc là, nous avons Alizé qui nous a parlé plutôt des contraintes budgétaires notamment. Donc maintenant, je souhaite donner la parole à Timur, qui lui aussi est plutôt pas d'accord.
Bonjour à tous. Moi, je suis pas d'accord parce que souvent les gens disent que voyager, c'est oublier, problème, profiter et tout. Moi, je suis d'accord sur la manière de profiter, de prendre du plaisir, mais ça ne change rien à ces problèmes. Les problèmes restent derrière soi. Comme l'a dit Blaise Pascal, le voyage n'est seulement qu'un détour pour fuir soi-même. On n'est donc pas libre, mais diverti. Pour Pascal, changer de lieu ne libère pas, cela distrait simplement nos contraintes intérieures.
Donc là, on a Timur qui nous a parlé de la distraction, c'est plus une évasion de notre routine habituelle. Et maintenant, on va passer la parole à Paul, qui lui est plutôt d'accord avec la question du débat.
Eh bien, bonjour à tous. Oui, je peux affirmer que nous sommes réellement libres en voyageant. Le voyage permet d'échapper aux contraintes de la vie quotidienne, de se libérer des attentes sociales et de se libérer des responsabilités. Nous sommes libres en voyageant car nous avons la liberté de choix, la liberté d'explorer de nouvelles perspectives. Des philosophes tels que Sénèque le Jeune, qui est un philosophe romain, cite le sage maître de lui-même et partout chez lui se passe aisément de voyager. Il reste alors pour ne pas renoncer au voyage l'invocation du plaisir qu'il procure. Entre autres, le voyage apporte de la sagesse, donc de la connaissance sur les autres, sur soi-même et sur le monde. Il y a aussi des poètes tels que Rimbaud qui parlent du voyage. Rimbaud voit le voyage comme un moyen de fuir les contraintes de la vie et d'atteindre une forme de liberté totale. Le voyage est une quête, une évasion, une sortie de la réalité, ce qui met le personnage en posture de marginal. Pour accéder à une forme de liberté la plus totale, la plus pure, il faut se marginaliser, comme dans le film Into the Wild, ou encore comme le cite Rimbaud dans son poème Ma Bohème.
Et maintenant, nous avons terminé ce débat avec les arguments de Paul. Et maintenant, c'est à vous, auditeurs de Radio Cham, de nous dire qui vous a le plus convaincu, entre Paul, Alizé et Timur.
Et pour terminer, Maïlis, Dorine, Oumaya et Célia nous invitent à réfléchir à la question suivante. Comment le voyage transforme notre rapport au monde et notre identité?
Bienvenue dans Sur la route, le podcast qui s'interroge aujourd'hui sur une grande question. Comment le voyage transforme notre rapport au monde et notre identité? Pour y répondre, nous allons explorer des émissions, des films et même nos propres expériences.
Dans J'irai dormir chez vous de Antoine de Maximi, voyage en mode ultra simple. Il part seul, une caméra à la main, il frappe aux portes, il dort chez des inconnus et rien n'est prévu. Cette émission montre que voyager, ce n'est pas seulement voir des paysages, c'est rencontrer l'autre, entrer dans l'intimité d'une culture et parfois même autour d'un repas improvisé.
Mais est-ce que ces rencontres improvisées peuvent vraiment transformer quelqu'un en profondeur?
Complètement. Quand tu quittes tes habitudes, tu t'adaptes, tu deviens plus flexible, tu acceptes d'être bousculé et ça touche directement à l'identité. On découvre que notre manière de vivre n'est pas la seule possible, ça ouvre l'esprit.
Tout ça est encore plus fort dans Rendez-vous en terre inconnue. Une célébrité est envoyée dans une communauté qui vit complètement différemment. Les Afars en Éthiopie, les Imba de Namibie ou les nomades du Tibet. Pas de confort, pas de repères, juste l'immersion. L'émission repose sur une idée simple, pour comprendre l'autre et il faut vivre avec lui.
Et psychologiquement, ça provoque quoi chez eux ?
Un vrai bouleversement. Les invités disent qu'ils viennent souvent plus humbles, plus connectés à l'essentiel et parfois même transformés. Ce choc culturel leur fait comprendre que d'autres manières de vivre existent et que la leur n'est pas la norme. La culture de l'autre devient un miroir pour apprendre sur soi.
En fait, tout ce qu'on décrit depuis le début, c'est ce qu'on appelle la psychologie du tourisme. C'est une branche de la psychologie qui étudie ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on voyage. Pourquoi on décide de partir, comment on réagit au changement de culture, ce que ça modifie dans nos émotions, nos valeurs, nos rapports à l'autre, comment ça transforme notre identité. La psychologie du tourisme montre que voyager n'est pas juste un déplacement, mais un processus de transformation personnelle.
L'article de Pauline Petit, « Les voyages nous rendent-ils meilleurs ?» explique que le voyage améliore l'ouverture d'esprit, mais seulement quand il est vécu pleinement.
Donc les voyages tout compris, où on reste entre touristes, ça change rien ?
Exactement, ce n'est pas le décor qui transforme, mais l'intensité des expériences, comme dans « Rendez-vous en terre inconnue ». Il faut une vraie rencontre, un dépaysement, quelque chose qui nous fait réfléchir, pas juste une photo devant une plage.
Psychologiquement, le voyage peut développer l'empathie, casser les préjugés et le fait de croire que notre culture est la référence et de juger les autres à partir d'elle. On revient souvent plus tolérant, plus curieux et plus conscient du monde.
On retrouve cette idée dans des films comme Into the Wild ou Nomadland. Dans Into the Wild, le héros quitte tout pour chercher un sens à sa vie. Le voyage devient un chemin intérieur, fait de rencontres, de difficultés et de remises en question. Dans Nomadland, Fern traverse les États-Unis en van, la route lui permet de se reconstruire après un deuil, de redécouvrir sa liberté et ses valeurs.
Donc pour toi, voyager, c'est une étape importante dans une vie ?
Exactement, une étape qui marque une transition intérieure. Tu pars, tu découvres d'autres façons d'exister, tu rencontres des gens qui te changent et tu reviens différent. Le voyage agit comme une transformation profonde de l'identité.
Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu un voyage qui vous a transformé ?
Oui, partir seule pour la première fois m'a montré que j'étais plus autonome, que je le pensais, ça m'a donné confiance en moi.
Moi, marcher seule pendant plusieurs jours m'a appris que la solitude pouvait être positive. Ça m'a aidé à mieux me connaître.
Comme quoi, chaque voyageur vit une expérience différente, mais chacun y trouve un morceau de lui-même.
Alors, comment le voyage nous transforme ? En nous faisant rencontrer l'autre, en nous confrontant à nos limites, en nous ouvrant à de nouvelles cultures, en révélant ce qu'on ne voyait pas de nous-mêmes. Voyager, ce n'est pas changer d'adresse, c'est changer de regard.
Vous venez d'écouter notre émission sur l'itinérance et la liberté réalisée par la classe de 1 TST1. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt sur Cham Voyage.
Cham Voyage. Cham Voyage. Cham Voyage.